ravie de vous retrouver à l'écoute de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson qui est une des maladies neurodégénératives les plus répandues après la maladie d'Alzheimer. Au centre de nombreuses recherches destinées essentiellement à améliorer la qualité de vie des patients, elle toucherait plus de 30 000 hommes et femmes en Belgique, parfois dès l'âge de 40 ans. Les symptômes moteurs, qui sont souvent les plus visibles et qui sont les principaux, on compte les tremblements, la lenteur des mouvements, la raideur musculaire, mais les causes de cette maladie sont encore actuellement très méconnues. On fait donc le point aujourd'hui dans cette émission avec le docteur Catherine Gillin. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver dans cette émission, docteur, neurologue, neuropsychiatre. Vous travaillez également dans la réadaptation fonctionnelle. Et avec vous, on va donc essayer de faire le point sur la maladie. On va commencer immédiatement, comme vous le savez, par un petit son. Ici, c'est un son qui a été enregistré en 2009 en France. Pour la première fois, étaient lancés à ce moment-là les états généraux des maladies de Parkinson. Il s'agit d'un colloque qui donne la parole aux malades, aux familles, aux soignants, pour qu'ils puissent s'exprimer en toute liberté sur la maladie. On écoute deux des intervenants qui parlent de leur expérience de la maladie.
Alors vous, Marianne Kunz, ce que vous souhaiteriez en tant que conjointe d'une personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson, c'est d'être davantage associée par les médecins dans les soins, dans les thérapies, dans tout ce qui est fait pour votre époux.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ça nous est arrivé tout au début de la pathologie de mon époux. Vous attendez dans la salle d'attente, madame, c'est votre époux qui est malade. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très très frustrant, puisqu'en tant que conjoint, ce qu'on a le besoin le plus, c'est de comprendre. Comprendre ce qui arrive à cette personne qu'on aime, qui souffre, et qu'on aimerait accompagner le plus loin possible.
Alors on reste dans ce qui agace. Par exemple, Annick Tournier, vous me disiez, moi je ne comprends pas comment on peut nous prescrire des médicaments qu'il faut couper en deux, alors que moi je n'arrive pas à les couper. Et je pense que dans ma salle, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à couper les médicaments, tout simplement.
Oui, mais en même temps, on nous parle de dosage, il est important de respecter un dosage. Quand vous coupez un demi-comprimé qui s'éclate en minuscules particules, comment vous répartissez les microgrammes pour la prise de tout à l'heure et pour la prise de tout de suite? Bon, il y a déjà ça. En fait, on nous donne des consignes, il faut être assez... il faut observer à peu près convenablement le traitement. Donc c'est vrai que c'est une difficulté, et c'est vrai que tous les jours, sortir X comprimés d'emballage pas du tout pratique, c'est assez agaçant, c'est assez irritant, ça nous met systématiquement en situation de pratiquement d'échec.
Colloque qui a donc eu lieu en 2009 et qui a montré pas mal d'aberrations par rapport à la maladie, ce qui montre aussi à quel point on doit encore beaucoup travailler là-dessus, à quel point la méconnaissance aussi est très importante. On va donc en parler aujourd'hui aussi dans l'émission avec vous, docteur. Rappelez peut-être ce que c'est neurodégénérative et si ça touche beaucoup de personnes. J'avais dit plus ou moins 30 000 personnes. C'est un nombre qui vous paraît aberrant ou assez exact?
Non, les chiffres sont autour de 30-35 000 en Belgique, effectivement. Effectivement, il y a à peu près 1% de la population mondiale après 60 ans qui est atteinte de cette maladie. Donc c'est vrai que c'est une maladie assez fréquente. Alors neurodégénérative, ça veut dire qu'effectivement, certaines cellules particulières du cerveau, les neurones, donc je vous rappelle, les cellules du système nerveux s'appellent les neurones, qui sont vraiment des petits organismes en soi, qui ont un noyau cellulaire avec toute la composante génétique, qui ont une espèce de petit poumon qui est la mitochondrie, et comme tout organisme, il se nourrit avec ce que le sang peut lui apporter, et puis il doit détruire ses déchets. Et donc ce fonctionnement doit être optimal, et tout ce qui peut mettre en péril un fonctionnement optimal de la cellule va finir par engendrer une série de pathologies différentes, on ne va pas rentrer dans les détails, oui, mais qui font que la cellule sera de moins en moins fonctionnelle, et donc toute la circuiterie, parce que le cerveau fonctionne vraiment par circuits très différenciés en fonction de chaque zone cérébrale et la fonction de cette zone. Et donc il y a une cascade, si vous voulez, de dysfonctionnement qui peut être engendré par un processus dégénératif. Alors, dans la maladie de Parkinson, c'est au départ une toute petite zone du cerveau qui est très très en profondeur. Donc on a les neurones en gros au niveau de ce qu'on appelle le cortex, la surface externe du cerveau. Et puis, on a des petits amas de neurones très fonctionnels dans la base, si vous voulez, dans le fond du cerveau, qui s'appellent les ganglions de la base. Et au départ, il y a une petite zone, le locus niger, qui est atteint dans cette maladie pour une raison au départ, en gros, qu'on ne connaît pas dans la maladie typique, en tout cas. On parlera, il y a des maladies qui sont pas typiques et dues à quelque chose. Ça s'appelle le locus niger. Et dans le locus niger, les neurones donc, s'abîment, s'altèrent. Et donc, ça entraîne un dysfonctionnement de toute la circuiterie qui est associée. Or, le locus niger est le départ vers la circuit, vers les ganglions de la base, de vraiment du contrôle automatique des plans moteurs qu'on a acquis. Donc, c'est vrai que les premiers symptômes seront des symptômes d'ordre moteur, mais qu'après, les dysfonctionnements des différents circuits qui vont petit à petit s'étendre vont entraîner une série d'autres symptômes. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les manifestations cliniques n'apparaissent que quand il y a à peu près déjà une perte de 70 à 80% des neurones. Ce qui veut dire
que quand on le voit, c'est déjà bien installé.
Voilà. Donc, on pense actuellement, quand on fait des études où on interroge les patients et puis des recoupements par autopsie, etc., que quand la maladie se déclare, elle est certainement en route depuis une dizaine d'années, ce qui est quand même assez énorme. Mais vous vous rappelez, dans la maladie d'Alzheimer, je vous ai dit la même chose. Et donc, ces processus neurodégénératifs, c'est des choses très lentement progressives. Le corps fait ce qu'il peut pour tenir le plus longtemps possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des évolutions très variables dans la maladie de Parkinson, comme on en avait vu dans la maladie d'Alzheimer, et qu'il y a des sous-types de Parkinson. Mmh. Et en gros, je crois qu'il faut d'abord parler de ce qu'on appelle un syndrome parkinsonien. Donc le syndrome, c'est l'association de symptômes cliniques. Ce reste un diagnostic clinique. Et quand on a un syndrome parkinsonien, on doit se poser la question, est-ce que sont les critères cliniques d'une maladie de Parkinson vraie, c'est-à-dire de cause inconnue qui arrive, paf, on ne sait pas très bien pourquoi, dans lesquels il y a quand même à peu près 15% de causes génétiques, ça c'est des cas particuliers. Et puis, les cliniques moins typiques, qui représentent à peu près 25% des syndromes parkinsoniens, sont finalement d'autres types de maladies, et c'est très important parce que l'évolution ne sera pas la même, et la réponse au traitement ne sera pas la même.
On a justement un premier témoignage de Marc, d'ailleurs si vous voulez témoigner ou poser vos questions dans l'émission, faites-le au 02 737 26 06 02 737 26 06, Sandra prend vos appels aujourd'hui. Vous pouvez également aller sur le site lapremière.be ou un message par SMS au 60 31 50 centimes le message. Donc Marc nous dit, j'ai eu un compagnon de 1966 à 2003 qui a eu la maladie de Parkinson et c'est un vrai fléau car elle a été très sournoise et généralement elle se poursuit par la maladie d'Alzheimer et pour l'avoir vécu je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux. Alors cette continuité comme vous le disiez justement, il y a souvent le fait que c'est ça, on parle plus maintenant d'un syndrome de Parkinson, fait que parfois il y a des confusions et que on confond parfois la maladie avec un début d'Alzheimer.
Oui, et puis je suppose, vu l'évolution que ce monsieur signale chez son compagnon...
66 à 2003, c'est long, hein.
Voilà.
Enfin non, pas la maladie, pardon. C'est la personne, ils étaient ensemble, mais je pense que c'est pas la maladie qui était de 66 à 2003. Okay.
Bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc c'est une maladie qui est inéluctablement progressive. Nous n'avons pas actuellement de traitement curatif. Nous n'avons que des traitements palliatifs qui accompagnent l'évolution et qui essayent de ralentir, en tout cas, les symptômes cliniques désagréables. L'évolution est quand même en général assez lente. Je veux dire, les gens ont classiquement une durée de vie pratiquement normale. On voit d'ailleurs que les maladies de Parkinson qui commencent très jeunes, vous l'avez dit dans l'introduction, il y a quand même 10% qui commencent en dessous de 40 ans. Ben, finalement, ils arrivent à des âges de 70 ans, voire au-delà, comme tout un chacun. Mais donc aussi, quand ça commence... Donc, la moyenne d'âge en Belgique, en Europe, c'est à peu près 55-58 ans, quand même, de début. Et donc, ce sont des gens qui vont vieillir aussi comme tout le monde. Alors, il y a, par rapport, si on parle de maladie d'Alzheimer, il y a, dans l'évolution de la maladie de Parkinson, des altérations, effectivement, des fonctions cognitives, donc les fonctions intellectuelles élaborées, si vous voulez, avec de toute façon chez tout le monde une série de symptômes, et puis à peu près une 30% qui évolue vers une démence parkinsonienne où ces troubles cognitifs prennent vraiment une ampleur considérable. Et puis il y a aussi, mais c'est sans doute lié à l'âge. N'oubliez pas, l'Alzheimer, quand même, une personne sur quatre à partir de 75 ans. Donc, je veux dire, on peut malheureusement cumuler deux choses. Oui. Alors, c'est vrai aussi que si on développe une maladie neurodégénérative, on est sans doute génétiquement un peu plus susceptible de la développer. Parce que, comme je le disais, il n'y a pas une cause connue. Il y a une susceptibilité génétique évidente sur laquelle se grèvent des facteurs soit interne, soit externe.
Ce que vous voulez dire, au fond, c'est que Parkinson n'entraîne pas forcément Alzheimer.
Non, du
mais
tout.
Que les deux maladies peuvent apparaître conjointement chez une même personne.
Voilà, mais c'est pas du tout 1+1=2.
D'accord. Alors, revenons à cette maladie neurodégénérative. Vous l'avez dit, pas de traitement curatif, mais aussi pas de connaissance de l'origine exacte en ce qui concerne la vraie maladie. On va essayer de bien définir de quoi il s'agit. Pas d'origine précise, sauf dans certains cas. Il y a quand même des exceptions. Il y a des cas où on sait qu'il pourrait y avoir. Alors, vous avez parlé de la génétique. Je voudrais tout de suite qu'on précise. Est-ce que systématiquement, papa fait un Parkinson, le fils ou la fille fera un Parkinson? Ou est-ce que c'est juste un terrain qui favorise l'arrivée éventuelle?
Ce sont des maladies de Parkinson particulières. Donc, si c'est quelqu'un qui commence une maladie de Parkinson à un âge classique, comme je vous disais, 55-65 ans, on va dire cette fourchette-là, le risque est un petit peu plus élevé, mais inférieur à 10%. Par contre, les maladies jeunes sont souvent des maladies d'origine génétique et on a d'ailleurs actuellement une quinzaine de gènes identifiés.
Oui.
Mais elles ont une clinique particulière. Alors là, je ne vais pas vous le détailler, c'est vraiment du domaine de la spécialité. Mais on peut les reconnaître assez aisément par des symptômes qui les font ressortir des maladies classiques. Et là, oui. Par contre, il y a des risques beaucoup plus importants puisque dans ces anomalies génétiques, certaines sont même autosomales dominantes, donc un risque sur deux pour la descendance, ou récessives, un risque sur quatre.
Un risque quand
Mais
même.
Ce sont des formes franchement très rares.
Alors dans le syndrome de Parkinson, on retrouve d'autres origines éventuelles qui là sont un peu plus connues. Alors ça peut aller de l'accident, vous m'avez mis dans les notes le boxeur par exemple qui a un traumatisme, qui subit un traumatisme.
Oui.
On en connaît un célèbre qui a été
Mohamed Ali.
Qui est dans ce cas-là, oui.
Donc en fait, on est là dans les syndromes parkinsoniens secondaires, donc on n'est pas dans des maladies de Parkinson, mais c'est exact, quand on rencontre un patient pour la première fois, il faut quand même toujours se poser les questions, d'autant justement s'il y a des choses un petit peu atypiques, d'autant s'il est jeune, etc. Alors dans les traumatismes, en gros, c'est rare qu'un traumatisme direct le provoque, mais par contre, les boxeurs, ça s'appelle la démence pugilistique, de pugila, à force de se taper sans cesse sur la tête. Mais c'est vrai, ça finit par provoquer des micro-traumatismes et un syndrome parkinsonien particulièrement sévère et très vite avec des altérations d'ailleurs des fonctions intellectuelles et de la personnalité. Une autre cause très fréquente de syndrome parkinsonien, c'est la prise de neuroleptiques. Alors les neuroleptiques sont des médicaments qui sont surtout utilisés en psychiatrie, psychiatrie lourde, dans les schizophrénies ou les choses comme ça. Et là, quelque part, c'est indispensable de les donner. Donc, c'est un risque qui doit être calculé et mesuré. Mais j'aimerais tout de suite quand même insister sur le fait qu'il y a des neuroleptiques un petit peu cachés ou méconnus. Par exemple, pour ne pas le citer, l'anti-vomissement, le Primperan, c'est un neuroleptique, donc ce n'est pas banal du tout de prendre ça. Et je m'insurge un petit peu contre la facilité avec laquelle on le donne.
Aux femmes enceintes aussi.
Absolument, c'est vraiment quelque chose qui devrait être évité. Un petit calmant prescrit à tour de bras, qui est le sulpiride, est aussi un neuroleptique. Il y a un neuroleptique caché dans le déanxide. Donc, ce sont des médicaments qui sont malheureusement donnés trop facilement. On oublie que c'est ça. Alors le risque, il n'est pas direct. Mais comme vous ne savez pas si votre patient n'a pas une susceptibilité génétique, le risque n'est pas non plus dose et durée dépendant. Quelqu'un peut en prendre pendant 30 ans sans problème et puis quelqu'un d'autre peut, après quelques petites doses, quelques mois, quelques années, développer un syndrome. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très intéressant à retenir. Et puis alors, il y a aussi les choses dont on parle beaucoup, qui sont les toxiques. Il y a eu un dérivé de l'héroïne aux États-Unis qui a d'ailleurs permis d'avancer beaucoup dans la recherche, qui est le MPTP. On a utilisé le MPTP sur les pauvres singes en laboratoire. Ça nous a permis de mieux connaître la maladie quand même. Et puis, il y a quand même un rôle très, très suspect de certains pesticides et de certains insecticides. Bon, on n'a pas vraiment de preuves hyper directes, mais quand même, c'est une fois de plus un facteur favorisant certains. Et puis, alors, il y a un fruit dans les pays exotiques, absolument, en Guadeloupe. Alors, c'est un fruit des arbres, des anonacées, et surtout ce qu'on appelle le corossol, qui est utilisé en tisane, petite tisane sédative et anxiolytique qu'on prend le soir pour aller faire dodo, enfin là-bas, heureusement ici on a de la valériane, c'est moins dangereux, mais comme quoi, hein. Et ça c'est une Française, c'est une neurologue française qui était en voyage là-bas et qui était interpellée du nombre de syndromes parkinsoniens et qui a découvert le rôle très 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 pervers en fait c'est un toxique terrible pour les mitochondries, donc les petites cellules respiratoires. Et donc voilà, donc on peut avoir des causes exogènes.
Pas de corossol le soir.
Voilà.
À éviter.
Absolument.
Ah oui, comme quoi, il y a encore pas mal de choses à découvrir sur cette maladie et sur la manière dont elle peut se déclencher. Alors, revenons peut-être à la maladie elle-même, donc au syndrome Parkinson, pas au syndrome secondaire dont on vient de parler ici. Dans les symptômes que l'on peut avoir, bon, on sait que ça travaille d'abord sur le cerveau. Que se passe-t-il ensuite dans le corps ?
Alors en fait, ce qui est atteint, ce sont les neurones dopaminergiques de dans la substance noire. Et la dopamine, on en avait déjà parlé, vous vous rappelez, pour le trouble déficit d'attention. C'est pas la même zone, c'est pas le même endroit, donc faut certainement pas faire une connexion entre les deux, sûrement pas d'amalgame. Cette dopamine-là, elle a un rôle moteur, mais elle a aussi quand même un rôle sur l'humeur, la motivation, l'intellect. Et en fait, on s'est rendu compte, alors qu'on croyait avant que c'était uniquement situé dans cette zone-là, que les autres neurones dopaminergiques sont atteints aussi dans le cerveau, notamment ça s'étend progressivement, si vous voulez, vers des zones justement plus corticales. Et puis il y a une atteinte au niveau de l'hypothalamus, il y a une atteinte au niveau de la rétine, et d'ailleurs pratiquement tous les parkinsoniens développent des troubles de la vision par dégénérescence de la rétine. Il y a des atteintes au niveau de la moelle, il y a des atteintes au niveau aussi du tube digestif. Et tout ça, c'est très important parce que ce sont des symptômes qu'il faut pour lesquels il faut être très vigilant parce qu'ils peuvent parfois même être prédictifs. Alors des signes avant-coureurs de la maladie de Parkinson, c'est une perte de l'odorat, parce qu'on a des neurones dopaminergiques importants dans la sphère de l'odorat, et c'est de la constipation chez des gens qui avaient des habitudes normales pour aller à sel.
Et qui n'ont pas changé d'habitude alimentaire.
Voilà. Et puis c'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, donc des variations de la tension et des chutes de la tension importantes. Oui. Donc, et ce sont en tout cas des symptômes qui arrivent pratiquement systématiquement dans l'évolution de la maladie.
Donc à vérifier, ne pas prendre des petites choses anodines comme ça, avec peu de sérieux, mais quand même de temps en temps.
Si ces symptômes-là persistent, il faut y penser. Bien sûr, il faut exclure des causes locales, mais s'il n'y a pas de cause locale, il faut bien examiner son patient, il faut voir un petit ralentissement moteur, un petit tremblement. Là, on va parler des symptômes par la suite, si vous voulez.
Mm-hmm. Mais non, allons-y maintenant, d'ailleurs, pour sur les symptômes.
Donc, on va parler de la maladie de Parkinson typique, hein, oui. Et pas des autres syndromes parkinsoniens. Donc, on a surtout comme symptômes, les tremblements et ce qu'on appelle le syndrome akinétorigide. Je vais tout de suite préciser ce que c'est dans ce qui concerne les symptômes moteurs. Alors le tremblement, il est très connu. C'est cette espèce de mouvement d'émiettement de la main. C'est un mais il n'est présent que dans 70% des cas. Donc il y a parfois des gens chez qui je dis vous avez une maladie de Parkinson et qui me disent mais c'est pas vrai, je tremble pas. Non, il y a quand même 30% de formes non tremblantes. Ouais. Alors c'est un tremblement extrêmement particulier qui survient au repos, quand on est tout à fait à l'aise, quand on est dans son fauteuil devant la télévision, quand on est relax. Et c'est un tremblement qui est rythmique, régulier, lent, de 4 à 6 cycles par seconde, et qui disparaît au début, en tout cas de la maladie, à l'action, à l'intention. Par la suite, il va parasiter également les gestes intentionnels. Le plus souvent, ça touche une main d'un côté, ça peut parfois toucher le visage et surtout le menton, et puis ça peut aussi toucher le pied. Et puis progressivement, ça va s'étendre au reste du membre.
Quand vous dites le menton, ça veut dire qu'on a des tremblements comme si on grelottait, ou que c'est toute la tête qui est entraînée par le menton ?
C'est plus souvent vraiment au niveau du menton.
D'accord. Oui.
Les autres symptômes, donc les symptômes de rigidité et d'akinésie, c'est parce qu'il y a effectivement donc une perturbation, je vous le disais, du contrôle moteur des gestes automatiques. Mmh. Et le plus souvent, c'est un ralentissement de la gestuelle au départ automatique et puis volontaire, c'est-à-dire une lenteur d'initiation du mouvement, une lenteur d'exécution du mouvement, une perte de tous les gestes automatiques dans la vie de tous les jours. Vous haussez les sourcils, vous bougez les mains quand vous parlez, vous avez ce qu'on appelle une mimique faciale qui change en fonction de votre discours, de vos émotions, de ce que vous faites, que vous réfléchissez, etc. Quand vous marchez, vous avez, comme tous les animaux, un automatisme de balancer les bras. On a gardé ça du quatre pattes alterné. Hein. Mmh. Tous ces gestes-là disparaissent progressivement. Donc ça se voit parce que le visage du patient devient de plus en plus figé. Il y a des gens, l'entourage dit « mais qu'est-ce que tu as ? Tu deviens triste ?» parce qu'il n'y a plus de mimique. Effectivement, le patient paraît de plus en plus inerte. Il a de plus en plus de mal à se lever. Son démarrage de la marche est lent. Le balancer des bras disparaît, le plus souvent d'un côté d'abord. Quand il doit se retourner, il doit commencer à décomposer son geste. Mmh. Et en fait, c'est ça qui va progressivement apparaître, c'est que tout ce que nous faisons d'automatique avec une certaine vélocité, comme ça, oui, élastique, rapide...
Rien n'est plus naturel dans le geste.
Et d'ailleurs, le traitement, notamment en kinésithérapie, va être de leur apprendre à penser à leurs gestes, à les décomposer et vraiment à faire la séquence progressive de la gestuelle.
Les chutes aussi, évidemment, sont très présentes dans la maladie, ce qui cause encore d'autres problèmes secondaires, comme des hanches fracturées, des choses comme ça, parce qu'en plus, ça arrive à un âge venant où le squelette est fragilisé. C'est aussi un des signes avec le tremblement qui sont les plus perceptibles et les plus connus du grand public.
Oui, les chutes, en général, ne surviennent pas tout de suite dans la maladie de Parkinson, en tout cas de la maladie entre guillemets vraie. Mmh. Par contre, si elle commence, si la symptomatologie commence par ça et puis se développe le syndrome parkinsonien, il faut penser à un syndrome parkinsonien autre, notamment la paralysie supranucléaire progressive, qui a un pronostic tout à fait différent. Alors, ce qui se passe dans les chutes, donc quand on parlait de la rigidité et du défaut de mouvement, akinésie, synkinésie, ça veut dire mouvement alpha privatif, ça touche surtout les muscles dits fléchisseurs et donc c'est petit à petit, le patient s'enroule sur lui-même, hein, il devient de plus en plus courbé, il ne redresse plus la tête en marchant ni assis d'ailleurs, il a les bras repliés vers le corps, vers soi, et il y a d'une part ça, le fait d'être de plus en plus penché vers l'avant, avec en plus une marche automatique de moins en moins efficace, avec des petits pas, et on va le voir aussi à un moment donné, cette marche va être interrompue par des blocages, donc effectivement vous avez toutes les raisons tout à coup buter et vous accrocher, et donc déjà de chuter pour ces raisons-là. Et puis dans l'évolution de la maladie, et ça, on pense d'ailleurs que ce ne sont plus les neurones dopaminergiques parce que ça ne répond pas au traitement. Lorsque la perturbation dans les circuits s'étend, si vous voulez, il arrive des chutes, des troubles de la posture, avec des chutes vraiment inopinées. Tout à coup, le patient est figé et s'écroule sur lui-même. Il arrive à quatre pattes et il a vraiment du mal à se relever. Et là, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles axiaux qui sont vraiment très, très difficiles à traiter.
Dans quelques instants, on parlera d'ailleurs de traitement. On recevra également Lionel Crasson, qui est chargé de communication pour l'association Parkinson Belgique. On en parle juste après ceci.
Nissan change les règles et prolonge ses conditions salon jusqu'au 29 février chez votre concessionnaire. Roulez en Nissan Micra pour 89 euros par mois. Offre soumise à condition. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Le Forum de Midi. Selon une étude internationale de l'Institut de médecine environnementale de Paris et de l'Institute of Neurocognitism basé à Bruxelles, environ un salarié sur trois souffre de stress, d'épuisement psychologique ou de perturbations liées à son travail. Le stress au travail est au cœur de notre Forum de Midi.
Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur lapremière.be.
En attendant d'avoir Lionel Crasson au téléphone et en direct sur antenne, vous m'avez dit on a oublié de parler quelque chose, docteur.
Oui, la micrographie.
C'est quoi la micrographie ?
C'est un symptôme qui peut être très très précoce et qui est une modification de l'écriture qui devient très 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 petite, une écriture en patte de mouche comme ça. Ouais. Et ça, c'est aussi tout à fait typique de la maladie et symptômes à regarder.
En tout cas, on comprend qu'on n'est pas, égaux devant la maladie, non. On n'est pas égaux devant les symptômes,
non.
On n'est pas égaux devant l'origine de la maladie.
Non, ni devant l'évolution.
Ni devant l'évolution.
Ni dans la réponse au traitement.
C'est extrêmement compliqué.
C'est très compliqué, il faut vraiment, il ne faut pas croire qu'il y a, effectivement, comme je le disais, une seule maladie, il y a vraiment un syndrome parkinsonien, et il faut être très très attentif à ça.
Lionel Crasson par téléphone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc chargé de communication pour l'association Parkinson voilà, Belgique.
Oui.
Alors, comme on expliquait un peu la maladie, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de la recherche, on avance un peu ou est-ce que les patients aimeraient quand même avoir un peu plus de réponses?
Évidemment, les membres qui s'adressent à nous aimeraient bien avoir effectivement un remède un peu miracle pour solutionner tout ça. Mais bon, malheureusement, ça n'existe pas encore. Toutefois, il y a des choses qui se font. Il y a deux ans, à l'association, on a reçu Monsieur Béchir Jaraya, qui est un neurologue de France, qui faisait toutes des expérimentations sur les thérapies géniques. Mmh. Et effectivement, c'était assez prometteur. Hein. Donc, c'était un peu technique, mais c'était assez prometteur. Donc, je pense qu'il y a des choses vraiment qui se font. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a des choses qui sont qui dans l'avenir vont se faire. Et bon, la prise en charge telle qu'elle existe maintenant, à travers les médicaments, à travers des systèmes comme la neurostimulation ou la pompe à duodopa, sont aussi des procédés qui marchent, qui fonctionnent bien pour toute une série de personnes et qui peuvent vraiment améliorer la qualité de vie. Quoi. Mmh.
J'imagine que ça doit quand même être frustrant pour la plupart des patients de voir qu'on tâtonne un peu finalement et que la recherche a vraiment beaucoup de mal à avancer, que ce soit dans la recherche de l'origine ou dans la recherche d'un traitement. Efficace.
Oui, tout à fait, et ça l'est aussi pour nous. Donc, c'est-à-dire que nous, notre action, elle se situe plus dans l'information, parce que je pense que à travers l'information, donc les patients qui vont continuer, par exemple, une activité physique suffisante, vont pouvoir gagner en qualité de vie, et les personnes qui sont mieux informées sur leur maladie, vont peut-être pouvoir arriver à la gérer mieux. Donc malheureusement, c'est la seule chose c'est ce qu'on peut proposer aujourd'hui. On peut pas proposer vraiment de solutions, comme je disais, tout à fait miracle, quoi. Ça, il n'y a pas encore, malheureusement, de solutions à ce niveau-là.
Quel est le plus facile pour s'adresser à vous, pour avoir des informations, rencontrer d'autres patients ou des personnes qui entourent des patients?
Voilà, donc en fait, nous, on travaille beaucoup au niveau de l'information. Donc vous pouvez téléphoner à l'association, au siège de l'association. On peut répondre à vos questions. Il y a deux psychologues qui travaillent à l'association qui peuvent répondre à des questionnements d'ordre psychologique ou sociaux. On a aussi des brochures, un magazine. Il y a toute une série de choses pour informer. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi des groupes d'entraide où les gens peuvent se rencontrer et partager leur expérience. Et aussi partager des informations. Donc c'est assez important. Nous aussi, on essaie aussi d'être un petit peu les porte-parole de nos membres. Donc par exemple, en 2011, 2012, on organise des formations gratuites dans les hôpitaux. Donc on va directement dans les hôpitaux et on propose des petites formations, sensibilisation d'une heure pour le personnel soignant, pour les infirmiers, pour qu'ils fassent un petit peu attention à certaines petites choses qui paraissent parfois anodines, mais qui sont très importantes pour les parkinsoniens, comme par exemple prendre la médication exactement à l'heure précise comme elle a été prescrite par le neurologue.
Mmh. On rappelle que les antennes locales dont vous disposez sont à Tuchy, Metz, Bruxelles, Mons, Verviers, La Louvière, Tournai, Moucron, Ottigny, Namur, Liège, Libramont, Charleroi. Oui, il y a donc certainement une antenne locale près de chez vous. Oui. Dernière petite question à propos du conjoint ou de l'accompagnant, puisqu'on en parlait en tout début d'émission. Est-ce qu'il y a une meilleure reconnaissance de sa participation, je dirais, à la thérapie de la personne qui est atteinte de Parkinson?
Une chose est sûre, c'est que son rôle est souvent, souvent très important et gérer cette relation quand la maladie s'installe et surtout quand elle devient de plus en plus invalidante, gérer cette relation devient parfois assez compliqué. Nous, on le voit au travers des antennes locales, parce que les gens viennent en couple aussi, hein, donc les antennes locales, c'est ouvert à tout le monde, aussi bien aux parkinsoniens qu'à leurs conjoints ou même des aidants proches, des parents, des enfants, etc. Mais cette relation vraiment entre le, le, l'aidant proche et le patient parkinsonien est fondamental. Bon, là-dessus, effectivement, vous parliez de reconnaissance. Mmh. Bon, à travers des ASBL comme aidant proche, justement, là, on essaie de travailler à ce qu'il y ait une meilleure reconnaissance, mais c'est pas encore super facile. Quoi.
Il y a encore du travail.
Voilà, il y a encore un peu de travail. Voilà.
Je rappelle que le numéro de téléphone pour vous joindre, c'est le 081 56 88 56, 081 56 88 56, et que vous avez également un site internet, parkinsonasbl.be, parkinsonasbl en un mot, et qu'il ne faut donc pas hésiter à vous contacter.
Voilà.
Merci beaucoup, Lionel Crasson.
Merci à vous.
Merci, bonne journée, au revoir.
Oui, au revoir.
Alors, docteur Catherine Gillet, on va parler des traitements. On disait qu'on n'est pas égaux non plus devant les traitements. Et en plus, il n'y a pas de traitement curatif. Ce sont des traitements palliatifs ou d'accompagnement qui améliorent le niveau de vie avec la maladie.
Oui, et par rapport à ce que ce monsieur disait et à l'attente des patients et des conjoints, c'est vrai qu'actuellement, le traitement, c'est de compenser les neurones dopaminergiques déficitaires et que l'avenir de la thérapeutique est de se concentrer surtout sur les moyens de stopper la progression de la maladie et d'agir aussi sur les atteintes qui ne sont pas liées au système dopaminergique et qui sont donc, comme on l'a dit, les atteintes cognitives, l'instabilité de la posture, etc. Donc, au niveau de ce type de démarche de recherche, c'est vraiment important. Alors, comment peut-on agir, ben justement, le traitement va viser à compenser autant que possible le déficit en dopamine. Et donc, on va essayer d'en apporter au cerveau, c'est-à-dire que on a depuis 1900, pratiquement fin des années 60, 69, 70. Mmh. Oui, pas plus que ça, non. Mmh. Je vois que vous avez l'air étonné. Donc, on a des médicaments, c'est-à-dire qu'on a trouvé une manière d'administrer cette dopamine parce que il y a dans la façon de se protéger du corps, ce qu'on appelle la barrière hématoencéphalique. Donc, il y a une espèce de grande barrière avec des gardes très, très vigilants qui ne laissent pas tout passer du sang, si vous voulez, vers le système nerveux central. Et donc, si on donne de la dopamine, elle ne passe pas. Donc, on donne, en fait, ils ont trouvé, peu importe comment, un précurseur de la dopamine. Et on donne ce précurseur, ce qui permet effectivement de ne pas avoir des doses beaucoup trop élevées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des neurones dopaminergiques en dehors du cerveau, qu'on peut avoir des effets secondaires aussi à ce niveau-là. Donc le précurseur de la dopamine, la L-DOPA, est connu depuis lors et est donné avec toujours beaucoup d'efficacité. C'est un médicament qui donne de très bons résultats sur les symptômes de tremblement et les autres symptômes de rigidité et d'akinésie, avec des effets secondaires qu'on va décrire plus tard. Et on a développé d'autres médicaments qui sont ce qu'on appelle des agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire ce n'est pas de la dopamine, c'est une espèce de fausse dopamine, ça lui ressemble, et ça va agir non pas en apportant dans la cellule une dopamine normale qui doit passer dans cette espèce de petite prise, la synapse, et puis être prise par le récepteur de l'autre cellule par la suite, mais qui va court-circuiter, aller directement agir sur le récepteur de la cellule.
Qui va un peu leurrer le système, quoi.
Et qui va relancer l'information comme ça. Donc ça leurre tout à fait le système. Et puis alors, on a un troisième type de médicament qui agit un peu sur la neuroprotection et sur de nouveau sur cette régulation post-prise, si vous voulez, post-synapse, qui est la rasagiline. Alors, la dopamine, il y a eu beaucoup de débats sur ce médicament parce que il y a à peu près 15% qui répond vraiment très très bien. Il y a 15% qui répondent pas. Et ça, on est sans doute dans des syndromes parkinsoniens et pas la maladie Parkinson. Et puis, les 75% répondent très bien pendant une durée qu'on appelle la lune de miel, qui est d'environ 5 ans pour les maladies classiques, où vraiment tout se passe relativement bien. Le patient retrouve une vie pratiquement normale. Et puis, la symptomatologie s'aggrave. Et on a dit tout un temps que c'était un échappement aux médicaments, mais pas du tout. C'est pas un échappement, c'est parce que la maladie progresse et qu'on commence à toucher d'autres types de symptômes.
Donc là, le médicament ne suffit plus vraiment traiter.
Alors, il y a un autre phénomène, c'est qu'il faut se rendre compte que la maladie continue à progresser. Et donc, au début, quand on donne cette dopamine en plus, les neurones qui sont encore vivants l'utilisent très très bien. Les neurones qui sont un peu plic-ploc, l'époque. Ils font ce qu'ils peuvent et si vous voulez, ils augmentent encore leur réceptivité de récepteurs et le transport. Donc ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que la cellule voisine puisse quand même capter. Mais tout ce système-là diminue avec le temps. Plus le fait que quand nous fabriquons notre propre dopamine, c'est de façon continue. Quand on prend des médicaments, c'est de façon discontinue. On les prend 3 ou 4 fois par jour. Et donc, au lieu d'avoir une imprégnation continue de la dopamine dans le cerveau, on l'a par effet dipulsatile. Et apparemment, c'est quelque chose qui finit par perturber ce dysfonctionnement dégénératif, d'autant qu'il est très hétérogène. Ça se fait vraiment plic-ploc. C'est pas une dégénérescence vraiment homogène.
D'où ma question qui tombe avec 2 auditeurs qui demandent quid des patchs qui servent à la stimulation. Alors je ne sais pas si ce sont des patchs de dopamine, mais j'aimerais que le docteur parle de stimulation profonde et des patchs qu'on utilise à cette attention. Ça ne vous dit rien, a priori.
Je pense qu'ils veulent parler de la duodopa. Donc, en fait, pour revenir là-dessus, ce qui se passe, c'est que progressivement, donc l'évolution de la maladie elle-même fait, on en a parlé, qu'il y a d'autres types de symptômes qui apparaissent, notamment les troubles de la posture, et puis que finalement, on a curieusement, des mouvements anormaux qui apparaissent. On appelle ça des dyskinésies. Et ça devient très très difficile parce que le patient a un effet transitoire de sa dopamine et puis il se met à avoir des grands mouvements tout à fait incoordonnés qui sont extrêmement invalidants dans la vie quotidienne, qui peuvent être des torsions de membres, des grands tremblements, des mouvements d'élancement comme ça d'un bras ou d'une jambe, voire de tout le corps qui se met à danser. Et donc on appelle ça les fluctuations motrice, avec à terme ce qu'on appelle l'effet on-off, c'est-à-dire que c'est comme un interrupteur, le patient en on va être bien, et puis tout à coup, pouf, mais ça peut être d'une minute à l'autre, un effet on, il est bloqué, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Et donc, quand on arrive à ce stade évolué de la maladie, après plusieurs années de traitement, on est confronté à de grandes difficultés d'adaptation des traitements médicamenteux. Ce qu'on fait au départ, c'est qu'on adapte les doses, on rajoute les agonistes, on fait vraiment ce qu'on peut à ce niveau-là. D'où l'idée d'agir autrement, avec notamment la pompe à duodopa. Alors, l'idée, c'est d'une part, court-circuiter l'estomac, parce que l'estomac fait partie des symptômes de la maladie aussi, il digère très très lentement, donc il y a une résorption du médicament qui n'est pas optimale, surtout si les gens mangent beaucoup de protéines. Et on chirurgicalement, on met une petite sonde, comme une gastrostomie, donc on fait un petit trou au niveau du ventre du patient, on introduit une sonde qui va jusque dans le jéjunum. Et le patient a une petite cassette sur lui avec une petite pompe et tous les matins, il met un gel, parce qu'en liquide, il faudrait des litres, donc c'est sous forme de gel où il y a un mélange de levodopa et de carbidopa. Et donc, cette dopamine, avec cette petite pompe, est mise tout à fait régulièrement au cours de la journée.
Ah, donc c'est diffus, là.
Et là, donc, on a une stimulation tout à fait continue, avec aussi une possibilité de varier les doses de façon beaucoup plus minime. Avec les comprimés, vous avez du 50 mg, ou vous faites des petites gélules moins, enfin, on est un peu coincé dans des doses assez énormes quand le patient a besoin de varier ses doses. Avec la pompe à duodopa, on peut varier par 2 mg. Donc, il y a une petite charge de matin, plus importante, puis une charge continue dans la journée, et puis s'il sent qu'il en a besoin, le patient peut se faire un petit shoot, si vous voulez. C'est assez pratique. Maintenant, c'est pas non plus du bonheur de se balader avec une sonde en permanence.
J'imagine, justement, j'imaginais bêtement les patchs, vous savez, qu'on colle sur la peau, etc. On pourrait pas imaginer, est-ce que médicalement c'est impensable parce que ça n'agirait pas suffisamment là où il faut que ça agisse, de mettre des patchs, de se coller des
dans
trucs
les patchs, il faut. C'est toujours une question de qualité de l'absorption par la peau pour avoir l'effet du médicament. Et donc, cette pompe à duodopa a un sens, mais elle ne se fait pas du tout de façon très très courante. Elle a quelques exigences, entre guillemets, de critères d'administration. Mais c'est vrai que dans des maladies évoluées, chez des patients qui ne peuvent pas bénéficier de la chirurgie, on peut parler de la chirurgie, c'est un traitement, c'est une alternative qui est quand même intéressante. Ça diminue considérablement le taux de médicaments qu'ils doivent prendre aussi.
Alors chirurgie, c'est chirurgie du cerveau. On va voir ce qui se passe au niveau des cellules. On va brancher des choses. Comment ça se passe?
Oui, c'est vraiment ça paraît un petit peu barbare et pourtant c'est absolument magnifique. Donc en fait, on a fait de la chirurgie dans le Parkinson depuis très très longtemps parce qu'on a commencé déjà au début du siècle. Mais à l'époque, ils allaient un petit peu comme ça et faisaient surtout des lésions. Hein, et alors les patients ne tremblaient plus, mais ils étaient paralysés, quoi. Donc voilà. Et puis avec l'avènement de la neuroimagerie, vous savez que maintenant on a des techniques d'imagerie par résonance magnétique absolument extraordinaires qui permettent d'avoir une anatomie très très précise. Et puis avec le développement en neurochirurgie de ce qu'on appelle la stéréotaxie. Alors stéréos en grec ça veut dire solide et taxie ça veut dire ordre, rangement. Et donc la stéréotaxie c'est une méthode de guidage et d'orientation dans l'espace d'un instrument chirurgical qui va pouvoir effectuer l'intervention sur une région extrêmement précise du cerveau. Et donc on fait d'abord un examen par résonance très très développé dans tous les plans. On mesure la cible qu'on va chercher, en l'occurrence dans la maladie de Parkinson. Actuellement c'est surtout ce qu'on appelle le noyau sous-thalamique qui est atteint. Pourquoi lui? Parce que, comme je vous l'ai dit, la perte des neurones dopaminergiques va entraîner un dysfonctionnement des circuits qui sont dans la suite, si vous voulez, et on va agir sur cette espèce de brouillard secondaire. Et donc, on repère le noyau sous-thalamique et on inscrit tous les paramètres d'angle sur un cadre qui est, lui, fixé à la tête du patient.
Oui.
Et qui permet, à ce moment-là, d'avoir vraiment, sur le cadre, la localisation extrêmement précise de l'axe dans lequel on va pouvoir rentrer une fine électrode dans le cerveau du patient pour arriver tip-top au dixième de millimètre près, là où on veut. Alors ça se fait sous anesthésie locale. Le patient n'est pas endormi.
Ah non, il faut qu'il soit conscient, parce qu'il faut
absolument
qu'il puisse répondre pour voir où on en est, etc.
Non, pas à ce point-là.
Ah, mais il y a beaucoup d'opérations qui se pratiquent comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on peut avoir un effet clinique immédiat, notamment sur le tremblement. Ouais. Et ça, c'est assez magique. Donc, quand on arrive au niveau de la cible, enfin, je vous donne pas tous les détails, c'est bien sûr suivi de façon très précise. Quand on arrive vraiment au niveau de la cible et qu'on branche l'électrode et qu'il devient actif,
le tremblement s'arrête.
Ouais. C'est effectivement beaucoup plus actif sur le tremblement que sur les symptômes akinétorigides, ça c'est évident. Alors après, donc on le fait soit d'un côté, soit des deux côtés. Cette électrode ressort donc du cerveau et est branchée sous la peau, hein, il n'y a rien d'extérieur, à un câble qui va à une espèce de petit boîtier qu'on met sous la peau du thorax, comme les gens qui ont un pacemaker cardiaque, si vous voulez. Et on peut, avec un aimant externe, décider des paramètres d'intensité et de fréquence de cet aimant. Et donc, une fois que le patient est opéré, on cherche avec lui quels sont les meilleurs paramètres pour avoir une vie aussi optimale que possible. Ça donne des résultats vraiment intéressants. C'est une alternative très, très, très élégante. Maintenant, effectivement, il y a des critères de sélection qui sont bien régis.
Ça, tout le monde, il n'y a pas l'occasion de passer par la chirurgie. C'est pas uniquement une question d'argent, c'est une question d'état physique dans lequel on peut ou ne peut pas intervenir.
Absolument.
Alors, la chirurgie, c'est une chose. Comme on avance assez vite dans l'émission, le monsieur au téléphone, et vous vouliez en parler aussi, parlait de greffe éventuellement et de thérapie génique. Est-ce qu'il y a... Bon, pour le moment, j'imagine qu'on n'en est pas encore là. Mais est-ce qu'on en est au moins déjà au stade des essais ce qui peut être fait?
Oui. Des essais, oui, beaucoup. Maintenant... Pour l'instant, effectivement, ça n'aboutit pas de façon formelle et je pense que ça sera pour les générations suivantes. Au niveau cellules souches, en tout cas, on n'a pas encore obtenu de différenciation en neurones dopaminergiques suffisante que pour pouvoir vraiment l'espérer. Il y a eu quelques cas intéressants avec l'implantation de cellules mésencéphales d'un fœtus. Mais là, bon, il y a des gros holà éthiques. Qui s'y opposent. Et puis, il y a eu à peu près 70-80 cas avec quelques cas de développement de dyskinésie, donc de mouvements anormaux incontrôlés, tout à fait rebelles et résistants à tout par la suite. Donc, ça a été pour l'instant un peu mis sur le côté. Et alors, les thérapies géniques, oui, elles sont vraiment en pleine recherche, mais on est vraiment encore au stade de la recherche.
Encore loin, malheureusement, pour pouvoir y penser dans les années à venir directement. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que ce sont alors là des accompagnants quand même oui. très intéressants. C'est la kiné, la logopédie, l'ergothérapie et surtout la psychothérapie oui. aussi. Parce que...
Alors ça, c'est essentiel parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est quand même invalidante. Et puis, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est pas comme, je sais pas moi, une migraine, vous avez mal à la tête et puis ça peut durer, puis après vous êtes de nouveau bien. C'est tout le temps. C'est vraiment tout le temps. Avec des fluctuations qui sont extrêmement variables, des fluctuations tant sur le plan moteur que sur le plan intellectuel. Ils peuvent être très très fatigués à un moment et puis en forme à un autre moment. On n'en a pas parlé, il y a des troubles du sommeil qui sont vraiment majeurs dans la maladie de Parkinson, avec même des choses tout à fait spécifiques. Il faut toujours penser à un syndrome parkinsonien si une personne se met à avoir des comportements élaborés en deuxième partie de nuit. On avait parlé dans le sommeil, ce sont les parasomnies du sommeil paradoxal, ça c'est très très impressionnant. Et puis alors ça fait parfois des conflits conjugaux parce que un parkinsonien tout à fait figé et rigide la journée, la nuit se met à se lever, déambuler, à déménager toute la chambre, quoi. Donc c'est très très impressionnant. Donc cette fluctuation est très difficile à vivre tant pour le patient que le conjoint. Et c'est vrai que c'est une maladie chronique très lourde. Alors la kiné est essentielle parce qu'on sait qu'entretenir le schéma moteur, les muscles, enfin le schéma moteur au niveau cérébral, mais bien sûr les muscles, apprendre les réactions réflexes pour éviter de tomber, de chuter, etc. C'est essentiel. Donc la kiné et même l'auto-kiné doit être faite de façon très régulière. Et puis la logopédie pour travailler sur les problèmes de voix, on n'en a pas parlé, de déglutition qui peuvent apparaître dans la maladie sûrement.
Un sujet encore vaste quand on pourrait encore
en parler longtemps,
oui,
sûrement.
C'est que pendant quelques temps. Hein. Juste signaler le témoignage d'Alain qui nous parlait du problème de sa femme qui est atteinte de Parkinson. Ils ont trouvé une solution pour communiquer puisqu'elle a des difficultés à parler. C'est l'iPad tout simplement qu'ils ont reçu gratuitement par l'AWIC qui est un service d'aide au handicap. Donc pensez-y aussi à ces petites choses qui peuvent vous aider au quotidien. Croyez-moi, ça peut vous aider et ça peut aider au supporter à la fois pour le conjoint.
Il faut trouver toutes les adaptations possibles, ça c'est clair.
Et n'oubliez pas l'ASBL Parkinson Belgique également qui peut être là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, docteur Catherine Gélin. À très bientôt dans l'émission.
Merci.
Dans quelques instants.